Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Nous sommes jeudi 27 janvier 2022. Vous suivez la radio Nzamba Gatekakawe. Oui, c'est le moment du journal, mais d'abord les titres. Les responsables du parti Senela Kayogoro en province de Makamba sont persécutés par l'administration et le service national des renseignements. Les membres de cette formation politique dénoncent ces actes. Et les malheurs des réfugiés burundais vivant dans la sous-région font tache d'huile. Après ceux de la Tanzanie, les réfugiés du camp de Karuma au Kenya affirment être persécutés. La coalition CBDH qui lutte pour les droits des réfugiés appelle au gouvernement kenyan à assurer leur sécurité. Et puis 27 janvier 2013, 27 janvier 2022, 9 ans après l'incendie du marché central de Bujumbura, les commerçants sinistrés n'ont toujours pas été indemnisés. L'UCOM lance un cri d'alarme auprès du gouvernement pour leur venir en aide. Et voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Une personne non encore identifiée a été tabassée à mort la nuit de ce mercredi à jeudi par des Imbonerakure. Cela s'est passé dans la commune de Buganda, en province de Cibitoke. Certains habitants disent que la victime était un voleur, mais d'autres disent qu'elle serait un Imbonerakure qui venait de la République démocratique et du Congo. Des sources à Buganda font savoir que son assassinat s'inscrit dans la logique de faire disparaître les traces d'une probable incursion des Imbonerakure qui opère à côté des militaires burundais dans l'est de la RDC. Des précisions avec Benny Axelakan.
Les informations en provenance de Buganda indiquent que ce jeune avait environ 30 ans. Il a été arrêté dans la localité dite Kumararo, dans cette même commune. Les informations font savoir que la victime a été soupçonnée d'être un voleur. Des jeunes Imbonerakure, militants de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD, qui étaient en patrouille nocturne, l'ont battu à mort après l'avoir ligoté. C'était vers 4 heures. La victime a par après été évacuée à l'hôpital vers 7 heures du matin, mais il a succombé à ses blessures, comme le confirment les habitants de cette localité.
C'était vers 4 heures du matin. Ils disaient qu'ils appréhendaient un voleur. Ils l'ont frappé à mort. Et au petit matin, il était inconscient. Et ce qui est sûr, personne ne l'a reconnu. Mais arrivé à l'hôpital, il a succombé à ses blessures.
Même si les Imbonerakure de Buganda parlent d'un voleur, d'autres sources à Buganda disent plutôt qu'il s'agirait d'un Imbonerakure qui était avec des militaires en provenance de la République démocratique du Congo. Ils sont rentrés selon les mêmes sources dans la soirée de ce mercredi à jeudi. Les mêmes sources ajoutent qu'ils ont traversé la Rusizi vers les transversales 6 et 7 avec un effectif non encore connu de vaches.
Les informations qui nous sont parvenues disent que la victime serait un des Imbonerakure qui sont rentrés cette nuit de la RDC avec les militaires. Ils ont traversé la frontière avec un nombre important de vaches. Arrivé à Kaburangwa, cet Imbonerakure aurait tenté de fuir et s'est perdu la nuit avant d'arriver à destination.
La rédaction de la radio Nzamba n'a pas encore eu la version des administratifs et les responsables de la police dans cette commune sur ce cas.
Et les familles des militaires qui tombent sur le champ de bataille en République démocratique du Congo sont inquiètes. Elles disent qu'elles ne sont pas informées par la hiérarchie militaire des circonstances dans lesquelles les leurs sont morts. Et pendant ce temps, des sources militaires parlaient de rapatriement de blessés pour des soins au sein de l'armée burundaise. C'est toujours silence radio sur cette question. Au point avec Josine Kazé.
Des combats qui se déroulent depuis quelques jours dans le territoire d'Uvira, en province du Sud Kivu, dans la République démocratique du Congo, auraient déjà fait des victimes au sein de l'armée burundaise. Les sources de la radio Nzamba au sein du bataillon police militaire font savoir qu'une maman qui aurait entendu que son fils a péri sur le champ de bataille en République démocratique du Congo est venue réclamer des nouvelles de son fils à la hiérarchie au siège du bataillon police militaire. Selon toujours les mêmes sources, le lieutenant-colonel Idéfonse Balanyekwa, commandant bataillon police militaire, a expliqué que son fils est au service en dehors de la caserne. Cette maman aurait été convaincue après un bref entretien avec le chef d'état-major général de l'armée, le lieutenant-général Prime Niongabo. Les informations faisant état des militaires qui ont été tués en RD Congo ont commencé à circuler après l'évacuation des blessés de guerre. Certains sont en train d'être soignés à l'hôpital populaire de Kamenge, communément appelé chez Adolphe. Les autres qui ont été légèrement blessés se font soigner dans deux endroits, à savoir le camp Gatumba, 111e bataillon dirigé par le lieutenant-colonel Mbuniedze, et le 112e bataillon, le camp Chibitoke, commandé par le lieutenant-colonel Désiré Nihabose. Les trois véhicules utilisés pour le transport des blessés sont les véhicules commandement du 112e bataillon, celui du 11e bataillon blindé et en camion du 110e brigade. Aux côtés de la République démocratique du Congo, le major Dieudonné Kasereka confirme que les combats se déroulent dans le territoire d'Uvira. D'un côté, des Imbonerakure proches du gouvernement et de l'autre côté, les rebelles du mouvement Red Tabara, l'a déclaré la semaine passée sur la radio privée Okapi. Mais du côté de l'armée burundaise, c'est toujours silence radio sur cette question d'incursion de l'armée burundaise en RD Congo.
Les militants du parti CNL, commune de Kayogoro, dénoncent les actes de persécution dont sont victimes les responsables de son parti. Des actes orchestrés par certains administratifs, des agents du service de renseignement et des agents de la police appuyés par la milice Imbonerakure. Des précisions avec Raoul Ngengouz.
Ces militants du parti CNL en commune et Kayogoro disent être persécutés par les agents du service national des renseignements, l'administration et la police en collaboration avec les jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD. Selon certains responsables du parti CNL, trois responsables de ce parti dans cette commune ont déjà été arrêtés ces trois derniers mois. Le cas le plus récent est celui de Bonaventure Ndikuriyo, connu sous le sobriquet de Bolingo, président de la commission de sécurité du CNL dans cette commune. Il a été arrêté ce lundi le 24 janvier 2022 par le responsable des services de renseignement en province de Rutana. Bonaventure Ndikuriyo a été arrêté en fin d'après-midi lorsqu'il y répondait à un appel téléphonique d'une personne non encore identifiée au chef-lieu de la commune Kayogoro. Selon toujours les responsables du CNL dans cette commune, Bonaventure Ndikuriyo a été arrêté avec un ancien compagnon de lutte au sein du mouvement FNL qui était venu lui rendre visite à son domicile se trouvant sur la colline Kiang de la zone Mugeni dans cette commune. Ils auraient été arrêtés sur des informations données par des jeunes Imbonerakure de cette commune qui ont informé le Service national des renseignements. Les deux anciens rebelles du mouvement FNL ont tous été embarqués et menottés par le responsable du service de renseignement en province Rutana sans mandat d'arrêt. Ils ont finalement été relâchés dans l'après-midi de ce mardi après des enquêtes. Ces militants et responsables du CNL accusent les autorités administratives et policières ainsi que les responsables du Service national des renseignements d'arrêter les militants de leur parti sur de fausses informations propagées par des jeunes Imbonerakure. Ils demandent aux autorités administratives et policières de mener des enquêtes préliminaires avant d'arrêter les innocents qui vont croupir dans des cachots et prisons sans preuve. Ils réclament aussi des poursuites contre ces jeunes Imbonerakure qui font des montages mensongers contre des innocents. Signalons que deux autres responsables du CNL en commune Kayogoro avaient été arrêtés en novembre 2021 avant d'être relâchés après plus d'un mois de détention. Il s'agit de Eric Ndikumwenayo, Butoi Ernest et un certain Patrice Nyavenda qui vivaient en clandestinité depuis l'arrestation d'Eric Ndikumwenayo.
Et puis les réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya sont persécutés. Ils accusent les réfugiés soudanais et les Kenyans de la tribu de Turkana d'être derrière cette persécution. Ils sont régulièrement bastonnés, dépouillés de leurs biens. Et parfois, des femmes et des filles sont violées. La situation préoccupe la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les camps des réfugiés de la sous-région. Cette coalition demande au gouvernement kényan de tout faire pour sécuriser les réfugiés burundais qui sont sur son sol. Les détails avec Trifine Kanyuabo.
Ces réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya sont régulièrement violentés au grand jour par des réfugiés soudanais et des Kenyans de la tribu Turkana. Des femmes et les filles sont violées quand elles sont à la recherche de vivres. Les réfugiés demandent au gouvernement kenyan et au ACR de faire arrêter ces persécutions avant que la situation ne s'aggrave.
Ici au camp de Kakuma, il y a des jeunes Soudanais et des Turkana qui créent de l'insécurité ici au camp. Les Soudanais se positionnent sur les routes et quand ils voient des Burundais, ils leur jettent des pierres. Ou s'ils attrapent certains de nous, ils les dépouillent de tout ce qu'ils ont. Il y en a même qui sont tués. Des femmes et des filles sont violées, surtout quand ils vont chercher des légumes dans des champs de culture. Ils le font régulièrement. Même hier, il y a une fille qui a été menacée par des gens munis de couteaux. Les Turkana font de même. Ils circulent dans l'enceinte du camp avec des bâtons et si tu les rencontres, ils te volent tout ce que tu as sur toi. C'est pourquoi nous demandons au HCR et à l'État tanzanien de nous protéger contre ces Soudanais et ces Turkana afin que nous vivions dans la paix et dans la tranquillité.
La coalition burundaise des défenseurs des droits humains et des réfugiés vivant dans les camps déplore la situation. Ils demandent au HCR et au gouvernement kenyan de protéger les réfugiés en respectant les textes de loi qui les régissent. Et leur demandent aussi de punir les bourreaux. Léopold Charangabo est le vice-président de la CBDH, Vicar.
On a appris que certains policiers sont derrière ces crimes, notamment des cas de vol. Parmi les 30 réfugiés attaqués dans les 3 mois, et on a appris que l'un d'eux a succombé suite aux blessures. C'est pour cette raison que la CBDH Vicar demande alors au gouvernement kenyan d'arrêter et traduire en justice ces groupes de criminels. La CBDH Vicar recommande au HCR de suivre de près cette situation de réfugiés du camp de Kakuma et de mener une enquête pour punir ces gens qui déshonorent cette grande organisation internationale.
La persécution faite aux réfugiés burundais dans les pays de la sous-région prend une allure inquiétante. Que ce soit au Congo démocratique, en Ouganda ou ailleurs, ils vivent la peur au ventre. La Tanzanie est le pays le plus hostile aux réfugiés burundais. Des discours haineux anti-réfugiés burundais n'ont pas cessé d'être proférés par les autorités tanzaniennes. Dans ce pays, des réfugiés burundais sont systématiquement tués, d'autres portés disparus, d'autres encore rapatriés par force. Des champs de culture appartenant aux réfugiés ont été détruites dans ces derniers jours.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao. La suite de ce journal avec cette brève. Les enseignants de l'école indépendante de Bujumbura ont observé un mouvement de grève le matin de ce jeudi. Ils protestent contre les retards répétés de leur salaire et la non-attribution des annales. Selon des sources sur place, le représentant des enseignants dont cet établissement a participé à une réunion avec la direction, ce responsable syndical aurait suspendu temporairement la grève, mais certains enseignants ne sont pas d'accord avec cette mesure de reprendre les activités sans avoir eu de réponse en rapport avec leurs revendications. Et le recensement à base ethnique et régionale que le ministère de l'Intérieur est en train d'organiser n'est pas du tout nécessaire. Certains fonctionnaires qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba demandent aux Burundais d'être vigilants. Pour eux, il y aurait un agenda caché derrière ce recensement. Suivez.
Que les gens vraiment ne soient pas roulés, ne soient pas trompés, les Burundais devraient avoir un œil vigilant par rapport à son soi-disant recensement qui est en train de préconiser par le régime CNDD-FDD. Il y a un agenda caché. Que les Burundais soient vraiment vigilants, qu'ils ouvrent leur œil. Alors, ce recensement n'en est pas un. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui sont en train d'organiser ce recensement, ce sont ces gens qui nomment des responsables à différents niveaux, à partir de la colline jusqu'au sommet de l'État. Alors, un moment, un procédé à ces différentes nominations, nous savons tous les critères qu'ils prennent pour que l'un ou l'autre soit nommé à un tel poste. C'est l'ethnie, ce sont des Hutus. Les accords d'Arusha, par exemple, préconisaient que dans l'armée, qu'il y ait un équilibre de 50-50, 50 de Tutsi et 50 de Hutu. Mais malheureusement, on constate le contraire.
Il suffit de connaître l'objectif et de ce recensement, car le recensement, l'ethnie ainsi que le journalisme ne suffit pas sans qu'on ait des explications suffisantes. De cela, il y avait aussi d'autres recensements qui s'est passé dans les années passées. Et concernant l'ethnie comme le G7 et le G10 ici. Mais de cela, c'est pour donc s'aimer la mésentente entre la population. Pour nous, nous voyons qu'on ne voit pas l'importance de ce recensement.
Oui, on ne voit pas l'opportunité de ce recensement alors qu'on avait déjà fait d'autres recensements en 2019, après en 2020. On prenait même des photos digitalisées où on les envoyait pour mettre sur le logiciel du ministère de la fonction publique. Alors les fonctionnaires sont gérés par, ne sont pas gérés par le ministère de l'Intérieur.
Et c'est une carte de trop et c'est inacceptable, s'insurge Oscar Boutaré, président du Forum des diasporas burundaises FODIB. Selon lui, la carte que le gouvernement burundais s'apprête à délivrer à certains Burundais vivant à l'extérieur du pays a pour mission de créer un climat malsain au sein de la diaspora. Et c'est aussi une manière de rançonner les membres de la diaspora. Il est prévu que cette carte soit achetée à $50 américains renouvelables chaque année. On l'écoute.
Le FODIB a appris avec grand étonnement le projet du gouvernement du Burundi en collaboration avec une organisation de la diaspora créée par le parti CNDD-FDD, qui est en réalité une section CNDD-FDD de la diaspora burundaise, de créer une carte, cette carte qui vient s'ajouter à la carte nationale d'identité, au passeport burundais, et pour nous, une carte qui aura pour mission de faire un recensement des membres de la diaspora acquis à la cause du CNDD-FDD. Cette carte donnerait certains avantages et serait renouvelable une fois par an contre paiement de $50, ce qui est pour nous une façon de rançonner les membres de la diaspora burundaise. Et cette carte n'a aucune utilité pour nous parce que nous avons droit au passeport burundais, nous avons droit à la carte nationale d'identité et ces deux documents suffisent pour nous pour être identifiés comme des Burundais. Nous ne voulons pas être identifiés comme des Burundais à part, nous voulons tout simplement être des Burundais comme tout le monde. Et le FODIB trouve que c'est aberrant que le gouvernement, en collaboration avec son organisation satellite, crée une autre carte pour faire une distinction entre les Burundais de la diaspora.
Et c'est le 27 janvier, et cela a fait 9 ans, jour pour jour, le marché central de Bujumbura partait en fumée. Les anciens commerçants de ce marché ont doublement perdu tant leur lieu de travail que leur marchandise qui n'était pas assurée. Et comme une mauvaise coïncidence, le jour de ce triste événement, tous les camions anti-incendie qui étaient affectés à la mairie étaient en panne. Le rappel des faits dans ce reportage avec Joséphine Jones-Muziman.
Le 27 février 2013 a été une journée de malheur. Un grand feu ravagea le marché central de Bujumbura. L'incendie s'est déclaré à 6h30 au quartier 4 dans un stand qui contenait des habits et du matériel électronique. L'intervention des pompiers a eu lieu vers 8h, selon les témoins sur place. Les personnes entraient et sortaient du marché, marchandises, cartons, pagnes, soit dans la main, soit sur les épaules ou sur la tête. Il était difficile de distinguer les commerçants des pillards. Les commerçants de ce marché ont doublement perdu leur lieu de travail et leurs marchandises qui n'étaient pas assurées, car lors de ce sinistre, plus de 90% des marchandises brûlées n'étaient pas assurées. Le jour de l'événement, tous les camions anti-incendie qui étaient affectés à la mairie de Bujumbura étaient en panne. Le camion anti-incendie qui était garé au marché central de Bujumbura avait été déplacé vers le bureau spécial de recherche BSR. La première lance-eau aura eu lieu vers 9h. Finalement, la situation échappa à tout contrôle. Les pompiers, dans l'incapacité totale de contenir le feu, se sont contentés d'éviter la propagation du feu vers les autres bâtiments. Le Rwanda, notre pays voisin, a pu dépêcher un hélicoptère en renfort. 9 ans après cet incendie, les commerçants de l'ancien marché central de Bujumbura sont toujours dans le désarroi. Certains sont si traumatisés, d'autres opèrent aujourd'hui au City Market dit Chetioni. Le marché central de Bujumbura a été construit en 1994 sur une superficie d'environ 3 hectares. Le coût de cette infrastructure s'élevait à 1,5 milliard de francs burundais. Sa gestion a été confiée à la société de gestion du marché central de Bujumbura, Sogemac, pour une durée de 30 ans. Le marché comportait plus ou moins 3000 stands opérationnels avec plus de 7000 occupants.
Les anciens propriétaires des stands dans le marché central de Bujumbura ont besoin d'être réhabilités dans leurs droits. Gabriel Ruffier, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, regrette que 9 ans s'écoulent ainsi sans aucune assistance aux victimes. Il demande au gouvernement de prendre des mesures visant à protéger d'autres marchés.
Le gouvernement devait mettre en place un système pour les aider à rembourser les crédits qu'ils avaient dans les banques, mais aussi les aider à avoir accédé au crédit à un taux d'intérêt très réduit, voire même avoir des dons parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas vraiment encore de moyens pour être acceptés par les banques, mais aussi payer les dettes qu'ils avaient. Le gouvernement n'a rien fait dans son sens. Avoir des stands ou échoppes dans le nouveau marché construit. Là aussi, on ne voit pas vraiment cette volonté de le faire parce que quand on a assisté que l'ex-ambassadeur du Burundi en Chine a veillé le marché, on a cru que finalement, c'est une affaire des privilégiés, mais pas des victimes. Une enquête indépendante qui pouvait prouver, montrer réellement ce qui a été fait pour que on puisse connaître réellement l'origine de l'incendie. Par ailleurs, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'autres marchés, plus de 10 marchés qui ont eu ce genre de problèmes de dégâts d'incendie. Donc, il fallait une enquête indépendante qui pouvait déterminer tous ces faits. C'est par rapport aux assurances. Nous pensons qu'il est extrêmement important que les assurances puissent être une obligation pour la protection des marchandises et des bâtiments, des constructions, des marchés. Et cela, c'est le devoir de l'État. Il faut que l'État le fasse. Donc, ça n'a pas été fait. Jusqu'à aujourd'hui, les choses sont comme ça.
Et terminons brièvement avec le sport. Les 8 pays qui doivent s'affronter au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition, sont tous connus. Cette étape de la compétition débutera le samedi 29 janvier avec le match entre le Cameroun et la Gambie, un pays que personne n'attendait à ce niveau de la compétition. Le second match de cette journée opposera le Burkina Faso à la Tunisie. Et dimanche 30 janvier, il y aura un choc maghrébin qui opposera le Maroc à l'Égypte à 17h. À 21h, la Guinée équatoriale croisera le fer avec le Sénégal. Pour le moment, Vincent Aboubakar, capitaine des Lions Indomptables, et le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. Et c'est ici qu'est prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Merci également à vos chers auditeurs. Au micro, vous étiez avec Alice Akimana et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.